Nous allons poursuivre d'emblée la dernière partie des tables rondes. Et je vais demander donc au professeur Franck Dutheil, à Patrick Lang, Madame Florence, elle est là, de venir. En fait, si vous voulez, on a regardé l'Afrique, on a regardé l'Inde, on a regardé la Chine, on a regardé les autres, et ils ne sont pas très bons. Mais si on regardait chez nous, si on regardait ce qui se passe dans les pays parfaitement développés, que ce soit les pays européens, les pays anglo-saxons. Et on va en discuter à propos des nymphoplasties, de la chirurgie esthétique, dont le point commun avec les mutilations sexuelles, c'est que ça se passe sur le sexe féminin. Est-ce que, comme l'a soulevé un petit peu Richard Bedoc, est-ce que entre excision et nymphoplastie, il l'a évoqué, est-ce que ça n'a rien à voir, hein? Ou bien y a-t-il des ressemblances? Et nous allons essayer de travailler chez des femmes adultes, nous allons exclure l'enfant, peut-être que le philosophe en parlera aussi. Alors, est-ce que excision et nymphoplastie, est-ce que ce ne sont pas des harmful traditional practice, des pratiques traditionnelles préjudiciables? Toutes les deux. Excision d'un côté, nymphoplastie de l'autre. Bien sûr, les représentations sociales les opposent totalement. Hein, la nymphoplastie dans les pays développés, c'est chic, c'est bien fait, sous anesthésie générale. Et bien sûr, les mutilations, c'est fait avec des lames de rasoir. Mais, encore une fois, est-ce qu'elles ne correspondent pas à quelque chose de construit? Et ce quelque chose de construit n'est-il pas commun à ces deux pratiques? Est-ce que ce n'est pas une même société sous-jacente? Et est-ce que cette société sous-jacente n'est-elle pas la même société patriarcale, qu'elle soit traditionnelle en Afrique, mais société patriarcale aussi dans les pays développés? Et donc, c'est à ce titre, hein, est-ce qui fait que la sexualité féminine et que les femmes soient toujours subordonnées au pouvoir des hommes? Et c'est important parce que ce qui se passe en privé, hein, on l'a vu, ça se passe aussi dans le politique, dans la sphère politique. Donc on va essayer dans cette partie de faire le point avec ce qui a été dit précédemment et puis de regarder devant notre porte, devant notre, je sais pas comment on essuie pied, hein, et se poser la question des ressemblances. Et s'il y a des ressemblances, c'est-à-dire que notre politique, il y a peut-être des incohérences. Hein. Et donc, encore une fois, voilà le thème un petit peu du débat. Alors pour cela, Franck Dutheil, responsable du service des brûlés à Nantes et de la chirurgie esthétique, puis Florence Francillon, mais qui reste là aussi, Florence Francillon, qui est sage-femme, mais qui est aussi vice-présidente de Gynécologie sans frontières, et puis Patrick Lang, qui est philosophe, un philosophe de l'éthique politique et la philosophie de l'existence, et qui a beaucoup réfléchi aussi à l'éthique. Et donc voilà les enjeux, les questions posées et le débat de tout à l'heure. On essaiera de dire mutilation sexuelle au Burkina Faso égale la même chose que les nymphoplasties place Vendôme à Paris. Je crois que c'est très très important de réfléchir à ça. Encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas les mêmes sociétés qui agissent aussi bien le Burkina Faso que les pays anglo-saxons protestants ou les pays anglo-saxons ou les pays européens? Donc voilà les questions posées.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, effectivement, je dirige le service de chirurgie plastique reconstructrice à Nantes ainsi que le centre des brûlés. Je suis confronté à la violence, je dirais, par la prise en charge des grands brûlés. Toute cette matinée, cet après-midi, je vous ai écouté, j'ai l'impression qu'il y a une violence qui est beaucoup plus souterraine, beaucoup plus moins évidente, entre guillemets, mais qui n'en est pas moins aussi sournoise et aussi violente et aussi forte. Alors, je remercie Henri-Jean Philippe de m'avoir invité avec une question un tout petit peu provocatrice, hein, puisque finalement c'est juste savoir si j'ai le droit, entre guillemets, ou le devoir de continuer à réaliser ma spécialité. Donc je vais essayer d'y répondre avec le plus d'objectivité possible. Donc la question c'est la suivante, la chirurgie esthétique chez la femme, hein, en Occident, s'agit-il d'un préjudice ou d'un bénéfice? Alors finalement, si on reprend la notion de chirurgie, la chirurgie est une agression physique à part entière, hein, c'est une agression physique qui est voulue. Mais bon, c'est-à-dire que par exemple, si on ouvre un ventre pour une appendicite, ben on ouvre un ventre, on prend un bistouri, on va couper la peau, des muscles. Et donc finalement, par définition, au départ, il y a une agression. Ça peut être considéré comme un préjudice. Toute la problématique, c'est la balance, c'est-à-dire finalement, face à ce préjudice, est-ce que la balance au final va permettre d'amener un bénéfice? Et effectivement, quand on reprend l'appendicite, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, la balance est en faveur d'un acte chirurgical, parce que si on n'opère pas l'appendicite, on meurt, et effectivement, on a vite fait le rapport entre le bénéfice, je dirais, et le préjudice. Tout le problème de la chirurgie esthétique, c'est que c'est un acte qui est volontaire, hein, qui est choisi, c'est-à-dire qu'on reviendra dessus, mais finalement, c'est la patiente, entre guillemets, qui vient voir le chirurgien et qui vient lui poser des questions pour savoir s'il peut, s'il doit, si on va aller vers une opération. Et donc finalement, le préjudice chirurgical va exister également, mais finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'on va mettre en face, c'est quelle est la notion de guérison que l'on peut apporter, qui était évident dans le cadre effectivement d'une infection, d'une fracture, et finalement dans la chirurgie esthétique, quel va être l'élément que l'on va pouvoir mettre en face pour finalement diminuer le préjudice et faire qu'au final le bénéfice soit au rendez-vous. Alors d'abord définissons la chirurgie esthétique. Alors c'est très flou entre guillemets. Je pense que si j'interroge toutes les personnes ici, chacun me donnera une définition totalement différente. Et moi-même, ça me pose un peu parfois des soucis de savoir quelle est la limite, quelles sont les frontières exactes de la chirurgie esthétique. Alors qu'on voit sur le plan législatif, hein, la chirurgie esthétique a pour but de rendre leur aspect normal aux altérations non pathologiques. Alors ce qui me gêne un peu dans cette définition, c'est leur aspect normal. Qu'est-ce que la normalité? À partir de quand on est normal? Est-ce qu'il faut rendre tous les gens normaux? J'avoue que cette législation, je ne rejoins pas trop la définition. Notre société, hein, donc la SOFCPRE, la Société française de chirurgie plastique, a essayé de faire une définition. Alors on rejoint la notion de demande de la personne, hein, c'est-à-dire que au départ, la volonté de se faire opérer vient de la patiente. Alors après, la définition est un peu alambiquée, c'est motivé ni par une pathologie, ni par des séquelles, mais par des conséquences morphologiques du vieillissement, de la grossesse ou de disgrâce acquise ou constitutionnelle. Donc finalement, c'est un gros fourre-tout, on mélange et finalement, on sort pas avec des idées très claires, moi non plus, quoi. Alors tout d'un coup, j'étais en train de discuter avec mon fils et j'ai pris le petit Larousse qu'il avait sur son bureau et puis j'ai pris le dictionnaire et puis voilà, la définition qui finalement peut-être me paraît la plus logique, hein. La chirurgie esthétique se définit comme une partie de la chirurgie plastique destinée à améliorer la forme ou l'aspect d'une partie du corps, et je pense que une définition qui est un peu sobre mais qui rejoint peut-être effectivement le mieux la réalité. Alors au lieu de la spécificité, au lieu de la définir, on peut essayer de savoir ce qui la différencie effectivement des autres chirurgies, puisque la chirurgie esthétique reste quand même une chirurgie dont on parle, c'est-à-dire que chaque fois qu'on est invité dans un dîner, que vous dites que vous êtes chirurgien, vous avez le droit à des questions. Alors souvent, ça se passe au café parce que on pose pas les questions devant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça, à la fois, c'est toujours très ambigu. On est contre, mais on a des renseignements à demander. C'est pas pour moi, c'est pour ma copine, bien sûr. Mais je veux dire, c'est toujours très sa source de polémique entre guillemets, quoi. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un acte volontaire, hein, c'est-à-dire une fois de plus, c'est la patiente qui va demander, hein, c'est-à-dire qu'autant l'appendicite, on n'appelle pas pour dire « Allô, je voudrais prendre rendez-vous pour me faire opérer l'appendicite », hein. Par contre, pour un acte chirurgie esthétique, pour des prothèses mammaires, pour une rhinoplastie, la démarche au départ vient de la patiente. Le chirurgien, finalement, il est là pour définir l'existence ou non d'une indication, hein, c'est-à-dire que oui, madame, effectivement, vous avez une grosse bosse sur le nez, ou non, vous n'avez pas de bosse, il faut rien faire, quoi, voilà. Et finalement, c'est la patiente, à la fin, qui va poser l'indication. C'est-à-dire, une fois qu'elle aura eu toutes les informations, elle va dire, oui, je veux revenir, je suis revenu en consultation, je veux revenir pour me faire opérer. Alors, une définition un tout petit peu, je dirais, législative, entre guillemets, c'est que la chirurgie esthétique est définie comme des actes qui sont non pris en charge par les organismes sociaux, mais ça n'est pas non plus spécifique, parce que certains actes de soins dentaires ou de correction de la myopie ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux. Et là aussi, ce sont des formes ambiguës, hein, puisque que dire à quelqu'un qui a des grosses lunettes, finalement, on va lui faire un traitement par laser, on va lui enlever ses lunettes, est-ce que c'est une chirurgie fonctionnelle, est-ce que c'est une chirurgie esthétique? Et donc, on rejoint un peu toute la problématique du flou entre la chirurgie esthétique et la problématique de la chirurgie fonctionnelle. Donc, vous voyez, notre spécialité, c'est une grande spécialité, entre guillemets, qui rejoint à la fois les actes de chirurgie plastique, de chirurgie reconstructrice et de chirurgie esthétique. Et toute la problématique, c'est parfois d'essayer de délimiter de façon claire et nette ce qui appartient à la chirurgie esthétique. Et forcément, il y a certaines zones qui sont un petit peu floues, avec des zones, je dirais, de connivence entre certains actes de chirurgie esthétique et certains actes de chirurgie plastique. finalement, le but du traitement chirurgical, le but de la chirurgie esthétique, comment essayer de le définir, hein, puisqu'une fois de plus, en tenant compte, je dirais, de la balance entre préjudice et guérison ou avantage entre guillemets, s'agit-il de transformer un corps, s'agit-il d'améliorer un corps ou s'agit-il finalement de réparer un corps? Ça, c'est une vraie question. Et on va voir que la réponse peut être parfois oui à trois, aux trois questions. J'ai pris exactement la même situation clinique. Une patiente qui vient vous voir, qui trouve ses seins trop petits et qui vient vous voir parce qu'elle veut des implants mammaires. La même situation au départ et on va voir qu'on aboutit à trois situations cliniques complètement différentes. Ici, une jeune fille de 20 ans qui a des seins petits mais qui peut vivre avec. Elle souhaite des gros seins, voilà, ça la gêne dans ses rapports. Il faut pas croire, c'est-à-dire que la demande est uniquement... on a toujours au fond quand même une souffrance, c'est-à-dire que les gens ne s'aiment pas dans leur corps. Et ce que je dis toujours, c'est quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Enfin, je veux dire, le rapport entre le corps et le psyché sont extrêmement étroits. Là, ici, j'avais mis des implants un peu gros et la patiente était très contente. Et je pense que c'est là la problématique de la chirurgie esthétique, c'est que ce que je dis toujours aux patientes, c'est que ça doit me plaire à moi. Moi, j'aime pas ces seins, mais je veux dire, à la limite, on s'en fiche complètement, quoi. Le principal, c'est quoi? C'est que ça lui plaise à elle. Oui, mais c'est vraiment un point clé, je pense, de la chirurgie esthétique. Là, on peut dire qu'on a une transformation d'un corps, hein, c'est-à-dire qu'on passe d'un bonnet A à un bonnet C ou D. Donc, c'est sûr que sur la plage, la situation va être un petit peu différente. Là, on a une amélioration, une patiente qui a 35 ans, qui a eu 3 enfants, qui n'en veut plus, qui a des seins qui sont un tout petit peu en berne, entre guillemets, hein, mais qui là aussi pourrait vivre comme ça de toute façon. Elle veut un volume qui m'apparaît beaucoup plus adéquat, avec une situation, je dirais, qui est homogène, des seins qui correspondent à son corps. Et donc finalement, là, on a simplement, entre guillemets, une amélioration du corps. Contrairement à avant, on avait une vraie transformation. Et puis là, une femme de 30 ans, exactement la même situation, qui vient vous voir. Elle a eu 2 enfants. Elle a des seins complètement déshabités. Elle me dit, j'ai des gants de toilette. Voilà. Donc, elle le vit mal. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'arrive pas à aller à la plage, qui n'arrive pas à aller à la piscine, qui ne se déshabille pas devant son mari, qui refuse les rapports. Donc, c'est-à-dire que là, on est justement dans le flou entre... Qu'est-ce que c'est finalement la chirurgie esthétique, hein, ça va être là aussi, on est dans les critères, demande de la patiente, acte non pris en charge par la sécurité sociale, tout ce qu'on veut. Et on voit que finalement la mise en place d'un plan mammaire, là va correspondre à une reconstruction d'un corps et on est dans une situation complètement différente. Donc vous voyez que la chirurgie esthétique regroupe quand même pas mal de situations, ce qui est un peu problématique pour définir à partir de ça des situations qui correspondent au départ à des situations complètement différentes. Alors finalement, si on revient à la question de départ, est-ce que c'est un préjudice ou un bénéfice? On va mettre comme toujours des petits poids dans la balance avec le négatif et le positif. Et on voit que quand on met des choses dans le côté négatif, on a finalement pas mal de choses. On a des complications opératoires, hein, puisque à partir du moment où on opère, on a un risque opératoire qui existe, y compris en chirurgie esthétique. C'est-à-dire que souvent les patientes me disent « Est-ce que docteur, vous êtes sûr que j'aurai pas de risque ?» Je lui dis « Écoutez, vous êtes venu me voir de Saint-Nazaire à Nantes, et c'est comme si vous me demandiez « Est-ce que je suis sûr que vous n'auriez pas d'accident sur le retour ?» C'est impossible. Ce sont des chirurgies qui sont bien programmées, sur des patientes qui sont souvent jeunes, en bonne santé. A priori, tout doit bien se passer, mais il y a quand même des aléas. On peut avoir des infections, on peut avoir des complications. Il y a eu des décès lors des actes de chirurgie esthétique. Donc, ça reste de la chirurgie avec des complications opératoires qui sont possibles. Autre élément négatif, c'est l'intervention ratée ou décevante, c'est-à-dire qu'on va espérer avoir quelque chose et finalement, ça se passe mal parce que justement, on a une infection, le chirurgien a eu un aléa ou voilà. Donc, finalement, à la fin, on se retrouve avec une situation qui peut être pire que le point de départ. Il y a l'aspect financier, hein, la chirurgie esthétique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, donc l'intervention coûte cher, ça n'est pas un arrêt de travail, tous les soins sont à la charge de la patiente, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi un investissement financier. Et puis finalement, on peut se dire, j'ai vécu jusqu'à présent, donc pourquoi aller me faire opérer? Et c'est souvent une espèce de culpabilité dont vous parlent les patientes, c'est-à-dire qu'elles disent, docteur, en plus, moi je travaille dans le centre des brûlés, est-ce que vous croyez que c'est vraiment bien de venir vous voir? Parce que j'ai vu qu'il y avait des brûlés dans votre centre aussi, et puis j'ai un peu peur pour mes enfants. Donc il y a toujours ce côté, finalement, la vie est possible. Je dis, oui, mais si vous êtes venu me voir, c'est que quand même il y a un problème, sinon vous auriez été faire des courses ou faire autre chose. Donc c'est qu'à la base, quand même, si vous venez me voir, il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous dérange quand même dans votre vie. Et on voit que tous ces éléments négatifs qu'on pourrait dire, à ce moment-là, il n'y a aucune indication de chirurgie esthétique, vont être compensés, entre guillemets, même dépassés par cette mal-être, cette souffrance, le fait que les gens ne s'aiment pas dans son corps. Et une fois de plus, cette non-aimance, entre guillemets, de leur corps va faire que ça va compenser, en tout cas ça va dépasser tous les éléments négatifs que l'on a pu citer précédemment. Alors les complications, ça existe depuis tout le temps. La chirurgie esthétique est une spécialité nouvelle, hein. Ça a été reconnu auprès des conseils de l'ordre depuis 1984, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et bien finalement, on s'aperçoit que la chirurgie esthétique a quand même existé avant, hein. Et la plus célèbre des complications, c'est le professeur Dujarrier, hein, éminent chirurgien plutôt osseux à l'époque, hein, qui travaillait à la Pitié-Salpêtrière, et puis qui a été sollicité par une mannequin de la maison Poiret, qui était une maison très connue de mannequins à l'époque, pour une patiente qui voulait se faire dégraisser ses jambes parce qu'elle trouvait ses jambes trop grosses. Lui, il se lance là-dedans, et finalement, il y a une infection, il y a une nécrose, il est obligé de lui amputer une jambe, deux jambes, et la patiente décède. Voilà. Donc, vous voyez que les complications existent, ces complications, elles existent, et c'est un acte qui fait actuellement jurisprudence, hein, d'accord, pour expliquer que, y compris en chirurgie esthétique, on peut avoir des aléas, on peut avoir des complications, d'accord. C'est-à-dire qu'une fois de plus, toute la problématique entre le préjudice et bénéfice, c'est finalement essayer de définir de quel côté, à chaque fois, va pencher la balance. Les complications existent toujours. Ici, une patiente que j'avais opérée personnellement, patiente qui a présenté des complications, patiente diabétique, qui était censée arrêter de fumer. Le problème, c'est que je suis arrivé à 8h dans sa chambre et que ça sentait la cigarette dans la salle de bain. Je lui dis, vous fumez pas? Elle me dit non. Bon, encore, c'est quelqu'un qui a dû passer, qui a dû fumer dans votre toilette, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une complication avec une nécrose, une infection, une déficience. On a une situation que l'on pourrait croire absolument catastrophique et finalement faire pencher les choses du côté des préjudices qui soient prédominants. Seulement, le problème, c'est qu'il faut revoir la situation en entier. Et vous voyez qu'au point de départ, on a une situation de départ qui est à ce niveau-là. Alors, bien sûr, on va passer la case B', entre guillemets, qui va correspondre à les complications, à des soins, et vous voyez que le résultat final est ici. Et la vraie question dans cette chirurgie, c'est finalement, au départ, est-ce que vous pensez que le point A, qui est le point de départ, et le point B, qui est celui d'arrivée, finalement, est-ce que ça a toutes les chances de correspondre à une situation qui sera meilleure? C'est-à-dire que finalement, est-ce que dans vos prévisions, en tout cas, malgré la possibilité d'avoir des complications, on n'a pas finalement un bénéfice pour la patiente? Alors, la chirurgie esthétique est une activité nouvelle, mais c'est une activité qui est en régulière augmentation, hein, c'est-à-dire deux chiffres pour déterminer ça. En 2009, la liposuction a été la chirurgie la plus pratiquée au monde, d'accord? Donc ça pose des questions de savoir que la majorité des actes chirurgicaux qui ont été faits dans le monde en 2009 étaient un acte pour des patients qui étaient dits non malades, entre guillemets. En 2010, 318 000 augmentations mammaires esthétiques, donc toute la ville de Nantes, d'accord, sur Nantes. Ouais, voilà, toute la ville de Nantes a eu une augmentation mammaire, et ça a été fait aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que ça donne l'idée de l'importance quand même. Ça donne l'idée de l'importance de la fréquence de ces interventions, hein, puisque c'était l'intervention chirurgicale la plus fréquente pour les patientes entre 19 et 34 ans aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que finalement, on peut se poser la question. C'est, est-ce que là aussi, c'est un choix délibéré de la patiente? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça répond à un besoin? Hein, dans ce cas-là, on va apporter un bien-être? Ou est-ce que, au contraire, c'est un phénomène qui est imposé, qui est média, pression sociale, hein? On peut pas ouvrir un journal sans en parler, on peut pas ouvrir la télé sans qu'il y ait une information là-dessus, qui correspond pas du tout à la réalité d'ailleurs, mais voilà, il faut vendre, et c'est vrai que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose, on a du mal, je veux dire, même en n'étant pas concerné sur le plan chirurgical, à ne pas en parler, à ne pas le voir à la télé, on a cette pression. Et finalement, c'est ça la vraie question, c'est est-ce que le préjudice, en dehors des complications et tout ça, ça ne correspond pas finalement à une hyperpression des médias qui impose à la femme, on fait aussi l'homme, hein, je veux dire, mais là, la question c'était sur la femme, hein, voilà, mais qui impose finalement à la femme cette activité chirurgicale dont finalement elle n'aurait pas besoin. Alors j'ai fait un tout petit retour en arrière et j'ai regardé mes prédécesseurs qui étaient des barbiers. Je remercie Louis XV d'ailleurs d'avoir transformé les chirurgiens en médecins, hein, d'accord, ou l'inverse, c'est-à-dire que les barbiers à l'époque n'étaient pas du tout médecins. Et un des éléments de beauté, c'était que le front soit un élément important, il se doit d'être haut et dégagé. Voilà, donc à peu près les femmes, pour être à la mode à l'époque, elles devaient avoir ma ligne d'implantation chevelue, vous voyez. Voilà, c'était comme ça. Hein. Les patientes, pour avoir justement cette perte de cheveux au niveau antérieur, on leur appliquait du sulfure d'arsenic de la chaux vive, et puis après, il faut éviter que ça repousse. Donc on appliquait du sang de chauve-souris, d'urine d'âne, de fiente de chat, de ciguë, de mercure de plomb. tout ceci est un terrain à peu près expérimental pour avoir un cancer de la peau. Donc c'est-à-dire que même au temps de Charles VII, vous voyez que on peut se poser la question, il y avait pas à l'époque de médias, mais pourtant les patientes entre guillemets cherchaient quand même une transformation, cherchaient le goût du beau et ça allait se poser des questions. Autant qu'on revienne en arrière, on retrouve le développement de la chirurgie moderne, c'est grosso modo 1914, hein, avec la découverte de l'anesthésie générale, des antibiotiques et tout ça, et on s'aperçoit que très vite, les gens un peu connus pratiquaient cette chirurgie esthétique, hein, lifting de Sarah Bernhardt, la rhinoplastie de Marilyn Monroe, donc c'est-à-dire que très vite, on s'aperçoit que les gens qui avaient un peu d'argent, qui avaient à faire au monde, entre guillemets, réaliser cette chirurgie esthétique. Et finalement, la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que cette modification, cette augmentation n'est pas due à une augmentation de l'accessibilité et non pas finalement une augmentation des pressions de la média et finalement que la chirurgie esthétique, elle n'a rien créé, mais elle a, en tout cas, je le pense, donné la possibilité aux gens d'avoir accès justement à cette modification physique. Et dans ce cas-là, le chirurgien n'apparaît pas, je dirais, comme un élément négatif, mais au contraire plutôt positif, hein, puisqu'il apparaît comme une sorte de régulateur, c'est-à-dire qu'on ne devient pas chirurgien plasticien par hasard, on est dans une législation, on est dans le cadre, on est dans le médecin, on fait des études normales, et donc finalement, le chirurgien plasticien va réaliser cette chirurgie esthétique dans le respect de ses patientes et dans certaines limites à ne pas franchir. Un exemple ici, deux patientes que j'ai vues en consultation, à droite et à gauche, coup de bol entre guillemets, elles viennent me voir le même jour. À droite et à gauche, elles viennent me voir pour une rhinoplastie. Bien, dans ce moment-là, j'ai opéré celle de droite puisque la demande me paraissait licite. Celle de gauche, je dis, madame, il ne faut pas vous opérer. D'accord? Donc finalement, le chirurgien est là pour dire effectivement, oui, au vu de tout ce qu'on a vu, on a un maximum de chances d'avoir un bénéfice, d'accord? Et que finalement, la balance entre le préjudice esthétique et bénéfice va pencher très nettement en faveur du bénéfice. Alors, il faut bien sûr se fixer des limites, hein, puisque des fois, on a des demandes un peu bizarres. Et je me rappelle toujours d'une des premières consultations quand j'étais chef de clinique. Je vois une patiente arriver avec un bonnet E, avec des implants mammaires, bonnet E. Et elle vient me voir, elle me dit, docteur, je ne supporte plus ces seins. Ah, je lui dis, je vous comprends tout à fait. Et moi, dans ma tête, je pensais qu'il fallait les réduire. Elle me dit, écoutez, il faut me mettre des implants plus gros. Et je lui dis, non. Je lui dis, non. Je veux dire, je ne vous transformerai pas en animal de cirque, hein, d'accord? Et souvent, la réponse de ces patientes, c'est, mais mon corps m'appartient, quoi. Mais mon corps m'appartient. Eh bien, quelque part, non. Leur corps ne leur appartient pas, entre guillemets. En tout cas, le rôle du chirurgien esthétique, c'est justement de fixer des limites. On doit rester dans le médical. On doit viser une amélioration et pas une transformation, poussée. Donc la chirurgie esthétique doit rester un acte médical avec des indications, des contre-indications et des limites déontologiques, d'accord? Et c'est pour ça que la chirurgie esthétique est réglementée et qu'elle se fait toujours évaluer. Je dirais que la chirurgie esthétique est en permanence évaluée, ce qui n'est pas le cas de toutes les activités chirurgicales. Donc forcément, parfois, ça dérape. Hein. Vous voyez ici cette patiente, lorsque la volonté de la patiente, je veux dire, dépasse effectivement les limites morales et déontologiques de ce que l'on peut accepter, et souvent essentiellement pour des raisons effectivement financières. Par contre, la chirurgie esthétique a le don quand même de limiter ici. Vous voyez, ici, on peut se poser quand même quelques questions. Hein, c'est-à-dire que une personne non chirurgien, je veux dire, a réalisé ce genre d'acte, je veux dire, sans aucun contrôle, sans aucun diplôme, je veux dire. Bon, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. J'avoue que je reste assez stupéfait que, premièrement, la personne accepte, et deuxièmement, que quelqu'un lui fasse, quoi, je veux dire. Donc, la chirurgie esthétique, une fois de plus, peut avoir cet intérêt de limiter certaines choses, et en tout cas, de les légiférer. Alors, finalement, si on essaye de résumer un tout petit peu la première question, hein, au départ, pour avoir un acte de chirurgie esthétique qui doit correspondre à une balance positive, avec un bénéfice qui soit très largement supérieur au préjudice, on doit avoir au départ un discours clair et renouvelé de la patiente, c'est-à-dire deux consultations. Elle vient vous voir, elle vous explique pourquoi ça va pas, vous discutez. Voilà. Votre examen, à la fin, vous devez dire finalement, oui, au vu de ce que vous me racontez, effectivement, la mise en place d'un plan mammaire peut se concevoir, vous n'avez pas assez de seins. En tout cas, voilà. Donc, l'examen clinique est en accord avec la demande de la patiente, hein, d'accord ? qu'on fait, ce que je vous ai dit sur les implants mammaires. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de voir si gains et complications, et finalement, mettre la balance entre les deux éléments, et dire, finalement, il y a quand même un maximum de chances pour qu'on se retrouve avec un bénéfice de façon évidente. Il peut y avoir des complications, mais malgré ces complications, si jamais elles existent, hein, le taux est faible, mais elles peuvent quand même exister, on va se retrouver quand même dans une situation où on aura un gain. Il faut respecter forcément la patiente, le corps humain, rester dans des codes déontologiques et qu'il n'y ait pas d'interférence. Et je vais y revenir juste après, car c'est souvent un piège. Et si tout ça est reconnu, à ce moment-là, on va aller vers une indication opératoire qui sera retenue. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'interférence, il s'agit d'une patiente que j'ai opérée il n'y a pas très longtemps, patiente qui me semblait complètement structurée, 45 ans, bien dans sa peau, intégrée socialement, bien, je la revois trois fois en consultation, elle trouve ses seins trop petits. Je lui dis, ils sont petits, effectivement, ils sont un peu déshabités. La mise en place d'un implant mammaire peut vous améliorer, effectivement. Je lui fais l'intervention. Moi, j'étais très content. J'étais très content. Et la patiente, au départ, oui, elle vient me voir trois mois après. Elle me dit, docteur, il faut m'enlever les implants. J'ai dit, écoutez, je ne vois pas, ça vous plaît pas, c'est quoi le souci? Elle me dit, non, il n'est pas revenu. D'accord? C'est-à-dire que... Ouais, mais... Il n'est pas revenu, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas fait cette intervention pour elle, mais elle avait fait cette intervention pour quelqu'un d'autre dans une situation de conflit de couple et tout ça. Et j'avoue que j'étais complètement passé à côté. Ça arrive, je me suis fait piéger. Donc finalement, parfois, on a ces interférences, et essayer toujours de dégager le fait que la chirurgie esthétique, ça doit être fait pour les gens, pour leur corps à eux, et en aucun cas une interférence. Et souvent, vous parliez des consultations avec le mari. Alors la consultation avec le mari... En l'occurrence, souvent, c'est pour les implants mammaires, hein, c'est-à-dire qu'au choix du volume, quand le mari commence à dire, vas-y, tourne-toi à droite, à gauche, vas-y. Je dis, bon, on va arrêter là la consultation, vous allez réfléchir, et puis madame, on va se revoir tout seul, et puis vous allez me dire exactement le volume, d'accord? C'est vraiment important, elle doit faire ça pour elle, hein, d'accord? Donc, en conclusion, je pense que si on parle en termes de guérison, je veux dire, l'OMS, définit la santé comme un bien-être physique et psychique. Et croyez-moi, la mise en place d'un implant mammaire chez une patiente de 18 ans qui a un bonnet A, ça remplace, à mon avis, une vie de Prozac. La relation chirurgien-patiente, c'est une alchimie, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes les situations dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense que si une indication est bien posée, avec respect de la femme, des codes de déontologie, on va avoir un bénéfice de cette chirurgie qui sera très largement supérieur au préjudice. Et je rappelle une des phrases de nos ancêtres grecs, primum non oscere, qui est valable également en chirurgie. Je vous remercie.